Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Comme toujours, à la technique et à la réalisation, mon complice Grégor et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui mon invité, un formateur-chercheur de l'Institut du Travail Social Erasme, Monsieur Philippe Galindo. Monsieur Philippe Galindo, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci beaucoup.
Alors, vous êtes formateur chercheur, non, je dis bien formateur chercheur, non pas enseignant chercheur. Mm-hmm. Vous me direz pourquoi vous faites cette différence entre formateur et enseignant chercheur dans l'Institut de Travail Erasme. Vous êtes docteur en psychologie. Vous avez commis une thèse pour aborder les thématiques, les stratégies identitaires et migration. Et vous avez choisi de travailler sur l'immigration latino-américaine et en particulier une analyse précise sur la France et le Brésil. Il ne faut pas oublier qu'il y a un bout de France dans le continent latino-américain. Le pays France, la République française se trouve également quasiment au cœur de l'Amazonie. Mm-hmm. Donc peut-être, vous allez nous dire qu'il y avait un passage par cette Amazonie. Vous avez travaillé en France et vous avez été attaché temporaire d'enseignement à la prestigieuse université Jean Jaurès en psychologie. Vous avez été également chargé de cours, 5 ans d'expérience professionnelle d'enseignement à l'université Jean Jaurès. Vous êtes un formateur et un chercheur assez prolixe. Vous avez, en parcourant votre CV quand même, on voit bien qu'il y a des publications significatives. Votre CV a très marqué, comme font les Américains, mentionnant les revues indexées, ou les revues 1 ou 2 étoiles au CNRS, 11 publications significatives avec des articles dans des revues, un comité de lecture, des revues indexées, mais également régulièrement des communications dans des colloques scientifiques internationaux ou en tout cas des colloques scientifiques à visibilité nationale et internationale. Alors là, pareil, on peut dire que vous mettez, comme on dit dans le langage colloquial, le paquet, 20 communications. Donc, très actif sur la recherche. Et votre thèse m'intéresse parce que vous abordez quelque chose qui, pour lequel aujourd'hui on est impacté, et peut-être votre parcours personnel vous a marqué dans votre chair pour parler de cette question, c'est la question de l'interculturalité. Mm-hmm. L'interculturel, de quoi s'agit-il? Et on verra que l'interculturel, on le trouve partout, y compris, mais on le verra plus tard, dans le travail social pour des futurs éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Mais d'abord, Monsieur Galindo, dites-nous, comment est venue cette idée d'aborder cette question d'une thèse autour de la problématique des stratégies migratoires et, bien entendu, l'interculturel France-Brésil?
Ok, donc déjà merci beaucoup aussi pour l'invitation, ravi d'être là, de partager avec vous un peu de ma recherche, un peu de mon histoire qui est tout à fait en lien avec, avec mes thématiques de recherche, les thématiques auxquelles je m'intéresse. Donc voilà, comme vous avez dit, formateur, chercheur à Erasme, Institut de Travail Social, et je voudrais rebondir sur une question... simple curiosité qui me semble intéressante. Quand vous avez parlé que voilà, le Brésil fait frontière avec la France, c'est vrai que c'est quelque chose, étant moi-même d'origine brésilienne, je vais le dire tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai découvert ici. Je suis une personne plutôt calée en géographie, mais pour nous, dans le continent américain, la Guyane française est un pays à part entière. Enfin, c'est la connaissance que nous avons, la méconnaissance que nous avons peut-être. Et c'est intéressant qu'en arrivant ici, j'ai appris que... que la Guyane est un département français. Bon, c'est juste à titre de curiosité. Ouais.
C'est souvent comme ça que les diplomates disent que la France est également une puissance amazonienne.
Mmh.
Parce qu'ils ont un bout d'Amazon, quoi. Alors certes, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un bout assez important.
Mmh, tout à fait. Donc voilà, je rebondis un peu, peut-être, je reviens un peu peut-être sur les origines un peu de cette recherche et le lien avec mon parcours, qui suis-je, d'où je parle. Peut-être c'est intéressant de dire ça d'abord. Donc, l'intérêt que je porte sur cette thématique... et de l'identité, un lien avec la migration, les parcours migratoires, ça a un lien avec ma vie personnelle. Moi-même, je suis enfant d'un couple mixte, d'une mère brésilienne et d'un père salvadorien. Salvador, c'est un petit pays en Amérique centrale. Je le précise parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas et c'est tout à fait normal. Et donc, depuis les plus tendres âges, j'ai fait plein d'allers-retours entre le Brésil et le Salvador. Voilà... moi et ma fratrie, bien sûr. Et je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, que je m'ai demandé, bien sûr, pas formulé de cette façon, mais comment, malgré le fait d'échanger toujours d'interlocuteurs, des contextes, des mondes, disons, comment rester moi-même ? Bien sûr, ce n'était pas élaboré comme ça. Ça, c'est une réflexion qui est venue beaucoup plus tard. Donc, quelques années plus tard, juste pour revenir un peu sur mon histoire, donc je suis né dans un pays, mais j'ai fait plein d'allers-retours, je pense qu'au long de ma vie, ma naissance et mes 15 ans, j'avais fait au moins 5 allers-retours. Donc voilà, il y avait un changement de contexte assez constant. Et quelques années plus tard, quand j'ai décidé de faire ma formation en psychologie, j'avais beaucoup travaillé sur les questions de la psychologie sociale et les questions d'identité m'intéressaient beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, à un moment donné, quand j'étais enfant de mes études de licence que j'avais faites au Brésil, la licence là-bas, ça a duré 5 ans, j'ai décidé de faire un master. Là-bas, ce n'est pas obligatoire. On obtient les titres de psychologue au bout des 5 ans de licence.
Au bout de 5 ans, c'est ça. Oui, oui, c'est le modèle avec la terminologie, la licenciatura.
Oh, c'est voilà, ça, exactement. C'est ça.
Qui est en fait le bac plus 5.
Exactement.
Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez exercer. C'est le modèle également que l'on retrouve dans quasiment tous les pays latino-américains, y compris en Espagne, au Portugal. Voilà, vous avez une licenciatura qui n'a rien à voir avec la licence.
Avec la licence, tout à fait.
Avec la licence française. C'est bien un bac plus 5 et vous pouvez exercer le métier de psychologue.
C'est ça. Donc, j'ai décidé d'enchaîner après avec un master, mais je voulais travailler justement sur cette question identitaire et migration. Et le contexte dans lequel j'étais, c'était un contexte qui ne me permettait pas trop de travailler sur cette question-là parce que c'était peu travaillé. C'est-à-dire le Brésil, historiquement, c'est un pays qui accueille beaucoup d'immigrés. Tout le long de son histoire, c'est un pays qui a été voilà, constitué par la colonisation,
par l'immigration,
voilà,
ouais.
pour des différentes vagues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la population étrangère au Brésil est très restreinte, si je peux dire comme ça. Et ce n'est pas une thématique qui était au moins à l'époque, ça je parle des années, il y a une bonne dizaine d'années, ça commence à dater. En 2012, ce n'était pas une thématique qui était très travaillée. Elle était plutôt travaillée dans des grands centres urbains comme à São Paulo ou à Rio, mais pas dans ma ville, qui est une grande ville. Mais, voilà. Mais par coïncidence ou pas, j'ai eu la chance d'avoir une nouvelle enseignante qui arrive à mon université, qui est franco-brésilienne et qui travaillait sur les questions de migration en France, déjà. Donc, j'ai fait un master avec elle sur les constructions identitaires en situation de migration. Et voilà, en gros, mais mon questionnement, c'était quel est le lien entre la construction identitaire et le contexte. Très peu développé. Tout ce qui est interculturalité, tout ça, c'était complètement nouveau pour moi.
Pour revenir, le concept d'interculturalité, c'est ce qu'il recouvre. Parce que c'est quand même des notions que l'on retrouve dans la littérature scientifique au début des années, fin des années 90, des années 2000. Mm-hmm. Avant, on parlait très peu d'interculturel, d'ailleurs, même y compris, j'ai vu qu'il y avait une littérature autour du management interculturel, etc. L'interculturalité émerge, pourrait-on dire, dans fin des années, fin 90, 2000, quoi. Mm-hmm. Et les chercheurs commencent à se préoccuper de cette thématique. Alors, pourquoi cet interculturel à ce moment-là ? Il y a un affrontement, les cultures sont en compétition également dans la mondialisation, est-ce qu'on peut dire ça ?
C'est une question très intéressante, en effet. C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on met derrière l'interculturalité ? C'est une question très pertinente à se poser. Dans le cadre de mes interventions que j'ai fait auprès des étudiants, c'est vrai que je commence parfois les cours pour demander qu'est-ce que c'est l'interculturalité. Et c'est un concept qu'on a pour acquis, disons, mais ce n'est pas si facile que ça. Même si on va plus loin dans la réflexion, c'est comme la question qu'est-ce que c'est la culture, hein, déjà, pour aller un peu plus loin, et après on va revenir sur ça. Donc définir la culture, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, juste à titre informatif, et jusqu'à très récemment, il y avait très peu de définitions, enfin il y avait très peu. Il y a jusqu'à présent au moins 300 définitions des cultures, bien sûr, il y a des choses qui se rejoignent entre elles, mais... C'est très, très complexe. Donc, l'interculturalité, c'est justement la... Bien sûr, il y a une définition beaucoup plus poussée, mais la rencontre des personnes qui portent différents éléments culturels, différentes valeurs, différentes normes, plein de questions différentes, et comment elles font pour articuler tout ça. C'est vague, ça reste vague parce que c'est complexe quand même. Mais l'interculturalité, c'est la rencontre des cultures. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que dans une durée plutôt continue de temps.
J'ai souvenance d'un certain nombre de cours, de mes cours, de mes maîtres, également philosophes, sociologues, qui abordaient cette question de l'interculturalité, et notamment sur l'immigration que je connais davantage, qui était l'immigration portugaise et espagnole dans notre pays, ici, la République française, en disant il faut être fier de ces... en utilisant une sorte de métaphore florale. Et vous allez comprendre pourquoi. En disant, si vous avez des racines fortes, qui sont vos racines, votre culture, eh bien, vous implantez dans une autre culture, c'est plus facile... Parce que les racines vont prendre. Donc, vous comprenez aisément ce que ça veut dire, cette métaphore florale. Les racines, ce méta, va vous permettre d'être fortement implanté parce que vous êtes fier de vos racines. Est-ce que c'est cela, l'interculturel ? Est-ce qu'on peut l'attraper par ça ?
C'est très intéressant comme question. C'est vrai que si on parle des racines, c'est une question, par exemple, je vais revenir peut-être sur la question centrale de ma recherche, que c'est justement les stratégies identitaires. C'est la recherche que j'ai commencé à travailler, comme je disais, pendant mon master et que j'ai continué davantage sur mon doctorat, pendant mon doctorat. Déjà, j'ai parti de l'idée que l'identité n'est pas quelque chose de figé. Je me base sur plusieurs... auteur par rapport à cela, comme Kalterstein, qui parle de l'identité comme ayant un noyau central et des éléments périphériques qui changeraient en fonction du contexte. Donc, peut-être c'est le lien qu'on fait avec la racine. C'est cette question-là, elle est... Mais quand on est confronté à un contexte différent, comme en situation d'émigration, ces racines, parfois, elles peuvent être questionnées, disons. C'est-à-dire, elles sont là, mais quel sens on donne à ces racines ? Et il y a des façons différentes de gérer ça, de traiter ça. Donc, je ne sais pas si ça communique plus ou moins avec la métaphore, mais les racines sont là. Mais parfois, il peut y avoir une certaine instabilité. Donc, je me dis, je suis dans un nouveau contexte. Est-ce que je me reconnais ? Est-ce que ces racines, elles m'attachent toujours à quelque chose ou je suis déraciné ? Voilà, c'est intéressant.
Et l'immigration est un déracinement, quoi. Total, quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
Souvent, les personnes qui ont vécu l'immigration disent oui, c'est un déracinement. C'est une souffrance. On a l'impression qu'on est arraché. Il est difficile de s'intégrer, mais on fait un effort pour s'intégrer. Mais malgré tout, il y a de l'étrangeté. On est étranger dans le pays qui nous accueille. Mais aussi parfois, malheureusement aussi, on est étranger dans son propre pays parce que notre pays ou le pays de nos racines a évolué sans
Bien
nous.
Sûr.
Et donc, en fait, on est étranger dans ces deux pays. C'est un sentiment assez bizarre.
Tout à fait.
De double déracinement, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, ça je peux le découvrir pendant ma thèse, c'est qu'il y a des auteurs qui parlent, ils se questionnent s'il n'y a pas aujourd'hui un nouveau paradigme de la migration. Il y a des auteurs qui parlent, qui soutiennent l'idée que nous ne parlons plus des migrations, mais nous parlons plutôt des mobilités, bien sûr, pour parler des personnes qui changent d'un pays à l'autre. C'est quelque chose que j'ai questionné dans ma thèse. C'est lié à plein de questions. Par exemple, je veux donner une illustration que j'ai vécue sur le plan personnel, mais qui m'a donné une bonne base pour ma recherche doctorale. C'était, je venais d'arriver en France, bon, ça faisait quelques mois ou quelques années, et j'étais chez une personne d'origine étrangère, une migrante en France. C'était son anniversaire, on était tous réunis, mais elle est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, et sa famille était à plus de 10 000 km de distance. Nous nous sommes réunis ici, il y avait un gâteau avec les bougies, et c'est un exemple que j'aime bien aussi d'utiliser en cours. Et on a chanté joyeux anniversaire autour de ces gâteaux, mais d'un côté, il y avait une personne physique en chair et en os, disons, ici, et de l'autre côté, il y avait sa famille, qui était pour nous sur les plans virtuels. Et c'est intéressant parce que nous avons chanté joyeux anniversaire en français, parce qu'il y avait une personne francophone, voilà, dans la langue étrangère. Et il y a eu une scène qui est presque magique pour moi, où elle a placé le gâteau devant la caméra de l'ordi, et les personnes qui étaient de l'autre côté ont soufflé vers la caméra comme... Et après, nous qui étions derrière, nous avons soufflé les bougies sur le plan réel. Donc, c'est intéressant aujourd'hui réfléchir qu'avec les technologies d'information et communication, nous pouvons en même temps être loin et proche, là-bas et ici, présent et absent. C'est une question qui est très intéressante et qui a été traitée dans ma thèse, mais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça aussi. Donc, en même temps, avec un coup de fil, nous pouvons être à très plusieurs proche. Kilomètres de distance, tout à
voilà,
fait.
Voilà, très proche. On se rapproche, il y a de la proximité. Et les nouvelles technologies, que parfois on critique, peut-être à juste titre, bien nous rapprochent et c'est intéressant d'y revenir. On va revenir sur votre thèse, parce qu'en sociologie, en psychologie, vous étudiez une cohorte de personnes, mm-hmm. Il y a de la méthodologie, on va traiter cela. Combien de personnes vous avez interrogées? Est-ce qu'il y a eu un questionnaire? Bref, autour de votre méthodologie, nous allons tenter de creuser. Mais avant, un petit clin d'œil, et ça vous rappellera peut-être quelque chose de votre pays d'origine, ou pourrait-on dire de votre pays de naissance, qui a été très très bien traduit, une belle chanson de la Bossa Nova, okay, qui a été traduit par le magnifique auteur, compositeur Moustaki, Les Eaux de Mars.
Ok, ah oui, très bon choix.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par épais, et on fin de camin, et on reste de toc, et on poco sozine. Reste de racine, c'est un peu solitaire, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours au studio Gisèle Halimi, avec M. Philippe Galindo, donc docteur en psychologie, qui est formateur-chercheur à l'Institut du Travail Social Erasme. Et nous avons dans notre studio également Kevin, qui est notre apprenti journaliste à l'École de journalisme de Toulouse et qui sera, pour cette année, on pourra dire universitaire, mon compagnon, pour interroger nos invités et travailler avec moi. Donc, avec Kevin, nous allons faire peut-être un binôme, un couple, une complicité intellectuelle pour aborder toutes les questions. Donc, il interviendra également, M. Galindo, sur les questions d'interculturel. Alors, pour revenir à votre thèse, de ces 4 ans de travail, vous avez 4 ans. Alors, la méthodologie, dites-moi comment vous avez abordé ces questions. Est-ce que vous avez eu des questionnaires? Est-ce que vous avez collecté le verbatim auprès des migrants? Est-ce que vous avez étudié une cohorte importante? Allez, je vous laisse.
Ok.
C'est donc pas une soutenance de thèse.
Ah non, 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 surtout pas. C'est intéressant parce qu'en plus, on n'a pas toujours l'occasion d'échanger autour de ça, donc c'est parfait. Et donc, cette étude, je l'ai faite, j'ai fait en plusieurs phases. D'abord, j'ai fait une phase, parce que je savais que je voulais travailler autour de la question d'identité, migration, voilà. Mais ça, c'était très flou, donc j'ai fait une première phase, une phase exploratoire, en première année de thèse, à la fin de la première année de thèse, où j'ai fait un entretien non directif, et auprès de 5 personnes qui étaient en situation de migration et qui habitaient en France. Juste avec une question inductrice, je ne me souviens plus exactement de tous les mots, mais c'était en gros, pouvez-vous me parler un peu de votre arrivée en France? Et ça laissait la possibilité à développer de plusieurs façons. À partir de cela, j'ai pu identifier plusieurs thématiques comme la question des aspects administratifs de la migration, l'importance d'avoir un réseau de soutien aussi, la question de l'écart culturel qui était très évoqué aussi entre leur culture d'origine et la culture du pays d'accueil, les outils employés pour gérer la question des contacts des cultures, les défis voilà, d'arriver dans ces nouveaux pays. Voilà, c'était large, mais ça m'a donné déjà quelques pistes pour la suite. À partir de ces questions-là, j'ai pu partir d'une hypothèse générale pour ma thèse, qui était la suivante. Les migrants adoptent des stratégies identitaires pour faire face aux conflits provoqués par le contact avec l'altérité culturelle.
Alors, pour être précis, ça veut dire quoi? Si vous nous donnez une précision, cela veut dire qu'on a des stratégies de réaffirmation de son identité pour pouvoir mieux s'intégrer? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, ou pouvoir mieux gérer cette rupture avec le pays d'origine?
Donc, c'est plus ou moins ça, c'est presque sur le bon chemin. En fait, les stratégies
éclairez-nous, éclairez-nous.
Oui, tout à fait, c'est très complexe. Et les stratégies identitaires, c'est un concept qui a été développé notamment par Camilleri, un psychologue, et si je ne me trompe pas, il était aussi philosophe, d'origine tunisienne, qui a développé des études en France dans les années 80 auprès des populations maghrébines, notamment tunisiennes. Il s'est inspiré du concept de l'identité sociale qui a été développé par Henri Tajfel et John Turner dans les années 70. Voilà. Et ces psychologues postulaient que tout individu est en quête, en recherche d'une identité positive, mais ça dépend de son inscription dans les groupes sociaux. Donc, en résumé, c'est que Camilleri a voulu traiter quand il a parlé des stratégies identitaires, c'est que lorsque les sujets s'est trouvé dans d'autres contextes culturels, donc en situation de migration, la rencontre avec cette altérité culturelle, avec l'autre, pouvait être perçue pour lui comme étant une mise en question de son identité et par conséquent comme une sorte de menace identitaire. Voilà, donc en gros, qui suis-je? C'est la question que je disais tout à l'heure. Et Camilleri, il a dit aussi que les stratégies d'identité, elles pouvaient être individuelles et collectives, qu'elles sont bien sûr mobilisées par l'individu, mais l'individu n'est pas isolé dans le monde. C'est en relation dialectique, bien sûr, avec les images qui sont envoyées par lui et son entourage. Donc voilà, en fonction des retours que son entourage lui donne, ses stratégies d'identité peuvent être impactées. Je ne sais pas si c'est clair ou
oui,
si
oui,
ça reste...
Oui, c'est clair, oui, oui. Alors, Kevin, oui, vous avez travaillé également ce concept. Alors, quelles sont vos questions pour notre chercheur?
J'aurais bien une petite question, M. Philippe Soto-Galindo, à propos de ce que vous venez de dire, d'ailleurs. La question est la suivante. Dans quelle mesure les dynamiques familiales influencent-elles la réussite de la migration culturelle des migrants latino-américains et pourquoi pas notamment en France, voire élargir à grande échelle dans différents pays?
Si j'ai bien compris... La question, elle est pourquoi... J'ai identifié quelle est la question de dynamique familiale. Et vous avez parlé aussi après des migrants latino-américains.
Exactement, j'ai vu que vos travaux portaient en partie sur ces migrants-là. C'est bien ça?
Voilà. Oui. Donc, vous me dites si je ne réponds pas à toutes les questions par rapport à cela. Donc ça, c'était le fait de travailler avec cette population, c'était un choix, dans le sens où, pour moi, c'était... dans l'idée de comparer ce que j'ai intitulé dans ma thèse une migration intra-régionale et une migration inter-régionale. Qu'est-ce que je comprends par cela? Une migration intra-régionale, c'est-à-dire des personnes qui sortent d'un pays du même continent, disons comme ça, le Brésil, les autres pays latino-américains, pour aller au Brésil, donc à l'intérieur d'un continent. Et intercontinentale, des personnes qui sortent d'un pays d'Amérique latine pour... venir dans un autre contexte, dans un autre continent.
Par exemple, si on parle de l'immigration à un moment donné, dans les années 50, les années 60, des Espagnols et des Portugais, là c'était inter. Hein, vous êtes bien, c'était l'Europe. Voilà. On sait par exemple qu'en Europe, si mes chiffres sont justes, il y a eu une diaspora espagnole de 2 millions de personnes espagnols qui avaient quitté l'Espagne et qui vivaient en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique. Cela représentait une communauté de 2 millions de travailleurs, pourrait-on dire, avec leur famille. C'est ce qui est important. Mm-hmm. Certains sont rentrés, d'autres se sont totalement intégrés avec ce qu'on appelle des mariages mixtes. Oui. On s'est marié avec une Française, une Allemande ou un Français. Bon, voilà quoi. Certains ont pris la nationalité belge, allemande, suisse ou française. Bon, voilà quoi. C'est ça. Alors que ceux qui viennent du Maroc, c'est un autre continent. Vous faites
c'est
cela
ça.
Quoi.
C'était un choix, mais j'aurais pu choisir avec d'autres populations. À un moment donné, j'ai pensé, est-ce que je prends des personnes en situation de migration, des migrations de plusieurs pays? Mais là, c'était un choix méthodologique de cibler sur la population latino-américaine. Une explication concrète, j'aurais une question aussi des facilités en termes des langues. Moi, je maîtrise le portugais et l'espagnol. Et les entretiens pouvaient être aussi faits en français. À l'époque, j'étais un peu moins fluent en français, mais j'avais quand même un niveau pour faire des entretiens. Voilà. Donc, pour répondre à la question, c'était un choix méthodologique pour faire un découpage des populations. Mais ça aurait pu être avec d'autres personnes issues d'autres pays, d'autres continents. Voilà.
Mais votre pays de naissance, c'est le Brésil. Est-ce qu'il n'y a pas un certain tropisme en disant, voilà, je vais me regarder moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Je vais m'observer moi-même. Voilà, vous êtes né au Brésil, vous immigrez, certaines mesures, vous avez choisi la République, la France, vous avez pris la nationalité française, aujourd'hui vous êtes français, je ne sais pas si vous avez, d'ailleurs c'est une question, mais si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, je ne sais pas si vous avez la double nationalité, si ça existe entre le Brésil et la France, mais vous avez choisi la France, est-ce que vous vous êtes observé comme, comme migrant vous-même?
Bien sûr, c'est une question très intéressante. Moi je pars de l'idée, on peut discuter sur ça, ça c'est bien sûr, qu'ils recherchent, quand on recherche quelque chose en termes scientifiques, il y a toujours un peu d'espoir dans ça.
Dans sa
recherche, bien sûr. Donc, il y a toujours un peu d'intérêt personnel. Après, jusqu'à quel point, voilà, ça, c'est nous et ça, c'est une partie de nous. Ça, c'est une discussion que nous pouvons mener. Donc, bien sûr, et ça, je l'explique très bien. Je suis très clair par rapport à ça dans ma thèse depuis le début. Des questionnements que j'avais par rapport à mon propre vécu, d'échanger des contextes, j'ai vécu au long de ma vie jusqu'à présent dans 3 pays différents et de façon à long terme. Donc oui, bien sûr, c'est une partie de moi, des choses que j'ai vécues. Moi-même, j'avais fait des migrations intra-régionales, donc entre 2 pays d'Amérique latine, et après une migration inter-régionale. Donc bien sûr, c'est basé aussi par rapport à mon vécu. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, s'il y a des parties de la question que je n'ai pas répondu. Je ne me souviens plus exactement de tous les détails.
Si, globalement, vous avez répondu à ma question. Après, je me demandais également, est-ce que votre famille vous a influencé dans votre intégration culturelle dans les différents pays dans lesquels vous avez habité?
Oui, ça c'est une question très, très intéressante, parce que je pense que c'est quelque chose qui dépend, ça va au-delà des familles, c'est aussi le contexte où on se trouve. Est-ce que ça permet aussi ça? Est-ce que ce sont des contextes très clivés? Ça, c'est une question que je pense que ça dépend des plusieurs éléments. Mais dans le cadre des... Voilà, quand je suis venu en France, je suis arrivé seul. Donc ça, c'était quelque chose qui est parti aussi des mois, tout à fait. Voilà.
Il y a, dans la recherche de ce doctorat en psychologie, est-ce que vous avez identifié des choses qui vous ont marqué particulièrement? Parfois, on cherche et on trouve des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est ça, la vraie recherche.
Oui,
est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Et dans la recherche, quelque chose qui vous a étonné en disant, mais tiens, j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il y a eu une surprise, il y a eu un étonnement.
Je reviens peut-être pour répondre à cette question sur la question de la méthodologie. Donc, j'avais dit que j'avais fait 5 entretiens pour une phase exploratoire qui m'a permis de définir la thématique de ma recherche. Et ensuite, j'ai fait 5 entretiens en France et 5 entretiens au Brésil que j'ai pu comparer, des entretiens assez développés. Et ça, c'était les volets qualitatifs de ma recherche. Et j'ai fait aussi une partie quantitative. C'était un questionnaire qui était composé de 3 parties. Et comme population, j'ai eu 234 personnes. D'accord. Je ne me souviens plus exactement combien dans chaque pays, mais c'était à peu près 60%
dans
en France.
Dans les deux pays
au Brésil et en France.
Et au Brésil et en France.
Donc des personnes d'Amérique latine qui ont migré au Brésil, des personnes d'Amérique latine qui sont migrées en France.
Donc une cohorte sur un questionnaire de 230 personnes.
234, c'est ça. Oui, 234, à peu près 230, voilà. Tout à fait. Donc, par rapport à... Je m'intéressais davantage à la question des stratégies identitaires, c'est-à-dire... oui, parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Et Camilleri, il dit que, quand il parle des stratégies identitaires, il y a les stratégies identitaires qui sont pour maintenir la valeur des soi et l'unité des sens. Bon, ça, c'est complexe, mais je vais cibler surtout sur la question de l'unité des sens. Donc... en résumé, c'est comment l'individu s'identifie, voilà, en tant que tel. Et lui, il parle des 2 fonctions des stratégies identitaires, la fonction ontologique, c'est-à-dire la préservation des soi, et la fonction pragmatique, la reconnaissance de la part des autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails
oui,
parce que
alors,
ça.
Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve dans cette question dite ontologique quelque chose qu'on retrouve chez Spinoza, dans cette puissance d'être, on se protège, l'ontologie, c'est-à-dire cette question du conatus, quoi. L'être en tant qu'être tend à persévérer dans son être. Donc il y a ontologiquement, mon être est protégé, là. Voilà, mon être en tant qu'être, voilà, tend à persévérer. Voilà, cette question ontologique est importante, là, vous avez raison de le souligner.
Et il est fort probable que Camilleri s'est basé sur ça aussi, bien sûr. Enfin, c'est...
Voilà. Et le côté pragmatique, alors ça veut dire que c'est des stratégies d'une adaptation au modèle dans lequel on se trouve, quoi.
Ça adaptation, peut être ça.
Ça peut, ouais.
Ça peut être ça. Donc, et ça peut être ça, ou oui, tout à fait. Et donc, Camilleri, il parlait des stratégies identitaires, des cohérences simples, c'est l'évitation du conflit par la suppression des liens des termes. Donc, on va revenir sur la question ontologique et pragmatique. Donc, quand on parle de stratégie identitaire, des cohérences simples, c'est le moi qui est favorisé, donc ma culture d'origine, je mettrai ça en avance. Voilà. Tandis que quand on parle des stratégies identitaires, des cohérences simples, c'est la culture du pays d'accueil qui va être favorisée. Presque, c'est comme si j'ai oublié qui j'étais pour m'intégrer à tout coût, à tout prix, voilà, et voilà, je vais devenir un autre. Et on revient à la question des racines qu'on parlait tout à l'heure.
Voilà, donc, on va tout à l'heure, il faut parfois des racines pour qu'une plante puisse se développer. La métaphore florale tout est intéressante. Plus les racines sont fortes, plus c'est facile de pouvoir se transposer, etc. Jusqu'à parfois, un certain nombre d'immigrés disent ben, « on oublie notre culture ». J'ai souvenance, dans certaines familles, on disait ben, « vous ne parlez pas la langue de la maison, vous parlez la langue du pays d'accueil ».
C'est ça.
Et y compris, on se forçait, on dit ben, « on parle français, on ne parle plus espagnol, on ne parle plus portugais, on ne parle plus maghrébin, on ne parle plus le marocain ou autre chose, on parle la langue qui nous a accueillis, on fait un effort ». Pour qu'il y ait cette intégration. C'est du côté du pragmatisme là qu'il faut voir ça.
C'est une très bonne illustration, parce que c'est un exemple bien sûr, beaucoup plus complexe que ça, mais des cohérences, des stratégies identitaires, des cohérences simples, pragmatiques, tout à fait.
Voilà.
Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais cette illustration,
elle donne une bonne base dans ce sens, oui.
Et il me semble juste important de parler surtout des stratégies identitaires, des cohérences complexes, qui ont été soutenus par Camilleri, où il parlait que la personne qui est face à plusieurs cultures, en situation de rencontre interculturelle, il prend en compte les deux systèmes. Il parlait des stratégies identitaires d'occurrence complexes irrationnelles, c'est-à-dire où la personne supprime le conflit de façon superficielle, et stratégies identitaires d'occurrence complexes et rationnelles, où il y a une résolution du conflit dans sa base, dans sa structure, avec une réflexion. Voilà. Rationnel et rationnel, c'est encore une fois de l'ordre de ce qui est plus pratique, ce qui est plus... Bien sûr, nous parlons ici des processus qui ne sont pas forcément réfléchis, qui ne sont pas conscients. Et le cinquième type des stratégies identitaires et pour préserver l'unité des sens, c'était la modération des conflits. Donc, l'individu, le sujet, n'arrive plus à éviter les conflits et l'issue de cette situation est la modération du clivage. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Pour moi, c'est important pour revenir.
Quand vous dites le clivage, ça veut dire qu'il y a une sorte de dilemme ou un conflit de loyauté. Est-ce que ça peut se résumer à un conflit de loyauté avec son pays d'origine ?
De ma compréhension, ça peut être un conflit qui est tellement dur à résoudre que voilà, on va passer à une autre chose, disons. C'est plus complexe que ça, bien sûr, mais c'est un conflit qui est tellement présent qu'il n'y a pas forcément des solutions concrètes. Donc, par rapport à cela, c'est vrai que les stratégies identitaires ne sont pas si évidentes que ça. Pendant ma thèse, nous avons créé, avec des collègues doctorants à l'époque, un outil basé sur un autre outil qui avait été créé auparavant, où il y avait des scénettes autour des questions culturelles comme la religion, la langue, etc. Et en fonction de chaque scénette, il y avait 5 situations. Et chaque situation correspondait à une stratégie identitaire. Je n'ai pas ça en tête parce que c'est très précis, mais je me souviens, par exemple, l'une des questions, c'était « Vous êtes en Éthiopie, dans le village des X, je ne me souviens plus exactement le nom du village, vous êtes invité à un mariage, qu'est-ce que vous faites ?» Donc, la réponse A, c'était « Moi, je vais là-bas et si je ne comprends rien... » Ce n'était pas forcément comme ça, mais en fait, je reste moi-même. L'option B, c'était « Moi, je vais m'adapter à tout prix... à cette cérémonie.
À la cérémonie et à la fête. Voilà. Je participe en fonction des codes
du pays. Et en fonction des cases que les personnes cochent, on pourrait dire plus ou moins le type de stratégie identitaire. C'est pas... Voilà, dans le cadre de ma thèse, ça m'a permis de constater que la presque totalité des personnes, des 234 personnes qui ont répondu au questionnaire, par rapport à toutes les questions, elles se placent plutôt dans les cohérences, dans les stratégies identitaires des cohérences complexes. C'est-à-dire... La presque totalité des migrants qui ont été enquêtés dans le cadre de ma thèse, aujourd'hui, ils prennent en compte les deux systèmes culturels, celui du pays d'origine et celui du pays d'accueil. Et là, nous revenons à la question de l'interculturalité, plutôt du processus d'interculturation. C'est-à-dire, nous sommes face à plusieurs cultures et la plupart d'entre nous, nous articulons ça. Cette image de rester clivé dans une culture A, culture B, peut-être ça faisait du sens dans les années 60, 70, 80, mais aujourd'hui, plus trop.
Donc ça veut dire qu'on tisse les deux cultures, quoi. Est-ce qu'on peut utiliser ça ? C'est-à-dire on essaie de dissiper le clivage. Il n'y a pas de clivage. On vit avec les deux cultures. C'est ça, peut-être, l'interculturalité. C'est la richesse des deux cultures, non ? Est-ce qu'on n'est pas plus riche et on partage davantage quand on a deux cultures, voire trois cultures, non ?
Pour moi, c'est un peu difficile de parler des deux ou trois cultures, parce que c'est vrai que quand nous parlons, même la façon comme j'ai, oui. je suis en train de parler depuis quelques minutes, nous associons culture plutôt à pays, mais c'est important de garder en tête, ça je travaille beaucoup avec les étudiants en formation, que quand nous parlons d'une culture, c'est comme il faut penser, je ne sais pas, je ne trouve pas une métaphore plus adaptée, sûrement il y en a, mais comme un oignon, avec différentes couches. Il y a la question culturelle du pays, la culture générationnelle, la culture de la région, la culture du genre, la culture du métier, voilà. Donc aujourd'hui, notamment avec la globalisation, la mondialisation, nous sommes plutôt dans une... Nous pouvons parler des sociétés interculturelles dans le sens où l'articulation entre les différents éléments culturels sont constantes. Par contre, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Nous voyons en même temps des mouvements qui sont de plus en plus présents.
Je vais vous donner un exemple. Un jour, dans un restaurant parisien, je vois un groupe de latino-américains d'Argentine. Mm-hmm. Et comme je les entends parler espagnol, je tends l'oreille comme ça pour écouter, mais sans être trop intrusif, quoi. Et ils étaient dans un restaurant marocain et ils servaient donc un couscous. Et là, j'ai eu la surprise, ce monsieur argentin prend la parole et dit à ses interlocuteurs: chers collègues, estimados compañeros, chers collègues, nous allons manger un plat typiquement français, le couscous. C'est assez intéressant de voir ça, depuis l'Argentine, l'image qu'il y aurait, y compris sur l'alimentation. Quand vous dites, c'est des couches, la façon de s'alimenter est culturelle. La façon de s'habiller, il y a du culturel. La façon, d'ailleurs, vous avez écrit un article sur interculturel et mort. Mm-hmm. La façon de traiter les défunts et la façon donc de mourir. Mm-hmm. Tout le monde meurt, mais la façon de mourir est culturelle. La façon d'aller à l'école, il y a de la culture, etc., etc. C'est dans ce sens que vous enseignez à vos futurs professionnels du travail social.
Tout à fait.
Et ils sont attentifs à ça, vos étudiants ? Ils ouvrent, c'est la découverte.
J'ai l'impression que oui. C'est pas plus tard qu'hier, j'étais en cours. Voilà, c'était autour de cette question. C'était introduction aux notions d'interculturalité, mais voilà, c'est une thématique qui nécessite beaucoup d'heures. Enfin, c'est impossible. Donc hier, pendant presque 4 heures, nous avons travaillé. Qu'est-ce sur la question de la culture, qu'est-ce que c'est ? Et voilà, pour commencer à parler d'interculturalité, c'est hyper complexe, mais ils ont été très attentifs, très participants, donc c'était hyper intéressant. Mais juste pour rebondir sur la question de l'alimentation, je voulais revenir par rapport à ma thèse. Comme je vous ai dit, la presque totalité des participants, ils se placent comme ayant des stratégies identitaires complexes, ils prennent en compte les deux systèmes. Mais pour l'alimentation, il y a une particularité. La plupart des personnes ont tendance à avoir des positionnements, si je peux dire comme ça, ontologiques, c'est-à-dire de garder un peu leurs habitudes d'origine.
Alimentaire,
oui.
D'accord.
Alimentaire, leurs pratiques, bien sûr, même s'ils naviguent, enfin, ils sont ouverts à des nouveautés culinaires, mais la nourriture, c'est un élément culturel qui parle beaucoup de qui je suis. C'est une excellente façon
C'est un marqueur identitaire fort, quoi.
Et nous voyons aussi, je me souviens une fois, j'étais en consultation, juste pour conclure sur cette thématique-là, parce qu'à un moment donné, j'ai fait aussi des consultations. Nous avons monté une association, donc c'était des consultations transculturelles, beaucoup de personnes issues de l'immigration. Et il y avait une patiente qui m'a évoqué l'importance pour elle. C'était quelqu'un qui était dans un CADA.
Centre d'hébergement. Alors, un CADA, pour nos auditeurs, c'est quoi ? C'est un centre ?
Un centre d'accueil des demandeurs d'asile.
De demandeurs d'asile. C'est le passage obligé pour pouvoir obtenir, l'instruction du dossier de demande d'asile.
C'est ça.
Voilà.
Bien sûr, c'est bien de préciser. Et elle m'avait évoqué dans une consultation l'importance qu'il y avait pour elle, les moments au sein de cette structure, des partages de nourriture. Elle m'a dit, c'est le seul moment où je peux montrer qui je suis, vraiment. Quand il avait des ateliers culinaires où on devait faire un plat des pays, voilà. C'est important d'aborder cette question-là, je trouve.
C'est une sorte de fierté, quoi.
C'est une sorte de fierté, c'est une façon de dire... Parfois, c'est la façon la plus simple de dire qui je suis. Parfois, c'est difficile de l'exprimer à l'oral, avec de la musique, avec... Voilà, mais l'alimentation englobe plusieurs éléments de la culture.
Alors, un autre clin d'œil musical, une diva que vous connaissez. Une petite promenade, Cesaria Evora.
Ah oui.
Cabo Verde, já espera te. Mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está tranquila, pelo manda um passeio nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Cabo Verde já espera-te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida, pelo manda um passeio nesse cantinho triste de medo, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança é de vai para longe, é de vai para terra grande, terra de felicidade. Cabo Verde já espera-te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida, pelo manda um passeio nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança e na Deus contei, e na Virgem Maria que está nascendo e na terra. Minha fé, minha esperança e na Deus contei, e na Virgem Maria que tá nascendo e na terra.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec notre invité, formateur, chercheur à l'Institut du Travail Social Erasme. On travaille, on discute de l'interculturel et en compagnie toujours de Kevin, notre apprenti journaliste de la très belle École toulousaine de journalisme, et Kevin qui sera un journaliste hors pair. On a vu déjà quelques questions très pointues à notre invité. Aujourd'hui, le travail que vous faites pour former des futurs éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs, qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle est la singularité à travers cette question de l'interculturel? Et est-ce que nos étudiants, vos étudiants, sont plutôt sensibles au discours que vous portez?
Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire plutôt que c'est eux qui m'apportent Et ils font renouveler aussi mes réflexions autour de ces thématiques, parce que les étudiants sont sur le terrain de façon constante. Ils ont énormément de questionnements qui sont très pertinents. Voilà, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement intéressés à cette question-là, à la découverte de l'autre. Une chose que je travaille beaucoup, un aspect que je travaille beaucoup avec les étudiants, c'est la question des... Quand on parle des rencontres interculturelles, et notamment en situation de migration, et le plus important avant tout, c'est d'entendre ce que la personne ou les personnes ont à dire de leur culture, avant de faire des raccourcis, des interprétations. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'ils sont, la plupart d'entre eux et d'entre elles, très sensibles à ces questions-là et qu'ils les mettent déjà en pratique, même si parfois il n'y a pas trop la réflexion théorique autour de ça. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant aussi pour nous qui formons des professionnels qui sont sur le terrain, bien évidemment. Donc voilà, c'est une question qui réveille beaucoup de discussions, beaucoup d'intérêt. Ça, c'est sûr et certain.
Peut-être une dernière question, parce que l'heure passe vite. Alors, vous-même avez éprouvé, comme on dit, l'immigration. Et vous avez changé de pays d'origine, le Brésil. Vous êtes arrivé en France. Et pourquoi la France ? Pourquoi pas ? Parce que souvent, on passe les pays anglo-saxons, les États-Unis, mm-hmm. le Canada, le Québec. Qu'est-ce qui vous a attiré en France ?
C'est une très bonne question. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une explication concrète. J'ai des pistes d'explications, mais je savais que je voulais à un moment donné travailler sur cette question-là, la question de la migration, l'articulation avec la psychologie. Et comme dans un premier temps, je n'avais pas forcément l'intention de sortir du Brésil, de partir du Brésil. Mais quand j'ai fait ma thèse, mon master, ma directrice de recherche, qui est franco-brésilienne, qui avait des liens ici à Toulouse, elle m'a dit, tiens, pourquoi tu n'essayes pas de faire un doctorat à Toulouse, il y a une équipe qui travaille sur cette question-là, l'interculturalité. Je dis, bon, pourquoi pas, je tentais comme ça. Et, enfin, c'était
donc
beaucoup plus complexe que ça, bien
sûr.
Il
y a eu un concours de circonstances.
Voilà, c'est ça. Et finalement, le destin a fait que je sois là. Et dans un premier temps, c'était pour quelques années. Et, voilà, pour et ça fait déjà presque 10 ans.
Ça veut dire qu'on prend racine, alors, pour reprendre
c'est
cette
ça,
expression.
J'ai créé des nouvelles racines, tout à fait.
Est-ce que votre pays d'origine vous manque ? Voilà, question plutôt personnelle. Vous vous dites, j'ai besoin de temps en temps d'aller sentir les odeurs de mon village, de ma ville, d'aller goûter la cuisine de mon enfance.
Oui, non, dans un premier temps, non. Mais de plus en plus, cette question, voilà, elle vient. Cet été, j'ai été pour quelques semaines. C'était plutôt, voilà, satisfaisant. Donc, je pense que c'est lié aussi au fait d'avoir tellement déménagé tout le long de ma vie, avoir changé de pays.
Vous êtes un nomade ?
Oui, enfin, je dirais...
Dans la globalisation, est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs, les formateurs-chercheurs, les chercheurs sont plutôt des nomades ? On est des citoyens du monde ?
C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais aujourd'hui, si on m'a dit tu voudrais déménager, aller quelque part ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas cette intention. Voilà, mes racines, elles commencent à être bien ancrées ici. Et voilà, mais voilà, pour répondre à la question, mon pays d'origine me manque, oui, mais pas peut-être comme d'autres personnes qui ont besoin de se ressourcer tous les X voilà.
X années, on a besoin. Voilà. Moi, j'ai connu une immigration où certains travailleurs immigrés disaient « Je ne défais pas la valise, elle est toujours en haut de l'armoire parce que je vais peut-être retourner au pays. » Et en fait, ils ne sont jamais retournés au pays.
Hein. Ça c'est...
La valise, on ne défait pas la valise, mais pourtant, on s'intègre.
C'est une question extrêmement importante, et ça j'ai pu constater aussi dans le cadre de ma thèse, mais on fait un parallèle peut-être avec le film La Cage Dorée, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, et les auteurs, comme je disais tout à l'heure, disaient qu'avant, quand on parlait d'immigration, c'était l'immigré qui partait dans un pays avec l'intention de revenir dans son pays d'origine, même si à la fin il ne revenait pas. Et aujourd'hui, quand on parle de mobilité, on est plus dans cette optique nomade, c'est-à-dire je pars, mais je ne reviens pas forcément. Voilà, c'est intéressant comme question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous l'observons, des personnes qui quittent leur pays d'origine pour aller faire un tour du monde. Il y a même plein de pays qui proposent le visa nomade, aussi nomade numérique. Donc voilà, c'est intéressant de traiter cet aspect-là.
Merci, mille merci, monsieur Philippe Galindo. On peut retrouver l'ensemble de vos contributions intellectuelles. Certaines sont sur les sites disponibles. Il y a des actes des colloques également. Et je rappelle, 11 publications de haut niveau, publications donc indexées, et puis une vingtaine de communications. Vous tapez sur Internet, Philippe Galindo, Philippe avec F-I, c'est important. Hein. C'est pas PH, c'est F-I.
C'est pas PH, c'est pas F-E, c'est F-I.
C'est F-I, Philippe. Et puis, on peut retrouver vos nombreuses contributions et articles qui sont publiés. Mille merci.
Merci
et très belle
vous.
Continuation pour d'autres recherches. Kevin, à la semaine prochaine, peut-être.
Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.